Soit vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence, voilà, on va rester un certain temps pour, on vous expliquera après. Voilà, donc il y a José en régie, comme d'habitude, Jean-Mathias et Michel. Et ce soir, on va vous parler donc des Lumières. Alors lesquelles? Non pas celles des frères Lumières, celles plutôt des 17e et 18e siècles. Voilà, bon, et c'est pour ça, 17e aussi, c'est pour ça que le premier morceau que vous avez entendu a été composé par un groupe qui s'appelle, ou qui s'appelait sans doute, Spinoza Project, c'est un groupe français, et c'est tiré de l'album Aujourd'hui, c'était Demain, Hier, et le titre du morceau c'était Chocolate Around the Moustache. Oui, excusez-moi pour ma prononciation dégoûtante. Voilà, donc ce soir, moi je vais vous causer donc avec les interventions toujours pleines d'esprit et de rebond faites par Jean-Mathias, des lumières, mais de quelles lumières? Ça c'est tout un problème, j'y reviendrai après. Alors d'abord quelques mots un peu généraux sur les lumières. Bon, très récemment, on a redécouvert en fanfare l'esprit de Voltaire, mais régulièrement, certains porte-parole autoproclamés de l'esprit français nous rappellent à quel point les Français sont cartésiens, à quel point les Français sont rationalistes, à quel point les Français sont attachés à la liberté d'expression, enfin tout ce genre de trucs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les philosophes français reconnus nationalement et internationalement sont quasiment au XXe siècle. Sont presque tous anti-lumière. Donc, pour eux, la raison, la rationalité sont des choses mauvaises. Voilà. Bon, je ne parlais pas d'un philosophe reconnu, mais d'un journaliste reconnu, qui écrit dans un journal reconnu aussi, Majuri. Majuri qui écrivait encore il y a peu que les nazis, le nazisme échappait encore à la philosophie parce que les nazis avaient utilisé l'arme par excellence des philosophes, à savoir la raison. Donc, étant cartésien, étant voltairien, titre personnel, j'en doute fort. Mais, j'aurai une preuve de ça, c'est que je vais vous parler d'un bouquin qui a été écrit, je crois, par un Anglais, qui n'a pas été traduit, évidemment, qui a provoqué beaucoup de débats outre-Manche et au-delà du Pacifique, enfin, au-delà de l'Atlantique, pardon. Voilà, et c'est un bouquin, donc bon, c'est des océans, c'est pareil. Il y a José qui se moque de moi là, en régie, Jean-Mathias qui est aussi qui explosait de rire, mais vous l'entendez pas. Voilà, mais bon, voilà, c'était l'Atlantique, désolé. Alors c'est un bouquin, ouais, voilà. Bon. Alors c'est un bouquin de Jonathan Israel. Vous pouvez, il y en a un qui a été traduit aux éditions Amsterdam, mais moi je vais vous parler d'un bouquin qui n'a pas été traduit, et c'est un bouquin qui s'intitule Revolution of the Mind, donc une révolution de l'esprit, et qui synthétise en 5-6 conférences un petit peu les idées générales qu'il a essayé de dégager, le fil historique des Lumières qu'il a essayé de dégager. Bon, et alors c'est un travail, le travail de Jonathan Israel a une ampleur extrêmement impressionnante, parce que bon, c'est il y a 4 volumes, je crois, 4 ou 5 volumes. Donc plusieurs font 800 pages. Ça s'étend, la période historique s'étend du milieu du XVIIe siècle et s'achève avec la Révolution française. Donc il traite un moment de l'histoire intellectuelle majeure, énormément de références, de documents, de citations, etc. C'est un travail énorme. Et l'idée, c'est que Israël va aborder les Lumières d'un point de vue à la fois historique et philosophique. Il prend les deux. Et idéologique aussi, parce qu'il y a aussi la politique qui va rentrer en œuvre, en jeu là-dedans. Alors pour lui, donc, comme je vous l'ai dit, contrairement à une lecture qu'on a assez fréquemment en France, on a l'impression que les Lumières commencent avec l'encyclopédie, pour lui, les Lumières commencent bien plus tôt, elles commencent aux Pays-Bas avec Spinoza. Au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire environ un siècle avant, un peu moins d'un siècle avant l'encyclopédie. Elle commence à ce moment-là, il n'y a pas qu'avec Spinoza, elle commence aussi avec Hobbes, un petit peu avant, Descartes, Bayle, Spinoza, Locke. Bon, s'achève à la Révolution française. Et pour Israël, une de ses idées très très fortes, c'est que les Lumières sont en fait divisées. Elles sont même opposées. Il y a des conflits à l'intérieur du mouvement des Lumières. Et le conflit va se jouer entre ce que lui appelle les Lumières radicales, qui sont elles issues de Spinoza, et qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires, et un courant plus modéré, qui était très longtemps dominant, qui est réformiste ou conservateur, et qui se réunit souvent autour de l'anglais John Locke ou de l'autre anglais Newton, et qui va être incarné essentiellement par Voltaire. Enfin, pas que, mais Voltaire va être un des grands champions de ce courant des Lumières modérées. On verra que les différences ne sont pas minces entre ces Lumières modérées donc, et ces Lumières radicales. Alors, ce qu'il ajoute, c'est que, si vous voulez, les Lumières modérées vont dominer quasiment toute la période historique. Simplement, aux alentours des années 1770, avec des gens comme Diderot et quelques autres, tout à coup, les Lumières radicales vont, en quelque sorte, emporter le morceau. Pour tout un tas de raisons. Elles l'emportent d'abord intellectuellement. les lumières modérées s'effondrent à cause d'alliances mal avisées entre différentes personnes qui, en fait, n'étaient pas d'accord sur le fond. Typique, par exemple, l'alliance de Voltaire avec les jésuites, qu'on a tendance à oublier, mais qui a duré très longtemps. Puisque Voltaire lui défendait Newton, se réclamait Newton et Locke, et que les jésuites pensaient que Newton et Locke, c'était un très très bon antidote contre l'abominable et affreux athée Spinoza. Et donc Voltaire, lui, va s'allier stratégiquement, avec quelques arrière-pensées, avec les jésuites. Et à un moment ou à un autre, en fait, ce type d'alliance est obligé d'éclater, parce que ils ont des désaccords trop profonds pour rester alliés bien longtemps. Et donc, les Lumières radicales l'emportent dans les années 1770, d'abord intellectuellement, je vous le disais, et puis politiquement. Et l'une des thèses d'Israël, c'est que c'est cette victoire énorme des Lumières radicales, représentée par, mettons, Spinoza, Bayle et Diderot, au XVIIIe siècle, c'est cette victoire donc des Lumières radicales qui va expliquer aussi la réaction très très forte de ce qu'on a appelé ensuite les anti-lumières. Les anti-lumières qui, elles, insistent sur la primauté de la foi et de la tradition. Et qui sont en opposition totale avec tout ce qui peut ressembler à des lumières, qu'elles soient radicales ou modérées. Et pour Israël, qui est d'accord sur ce point avec un autre historien des idées qui s'appelle Sternel, Asif Sternel, ces anti-lumières vont culminer politiquement dans le nazisme au XXe siècle. Alors, la généalogie est peut-être dure à retracer et à établir de façon certaine d'un point de vue historique. Malgré tout, il y a des thèmes très très communs entre ces anti-lumières qui naissent avec avec des gens comme Herder ou comme peut-être aussi Vico et bon, peu importe les noms. Mais ça c'est au 17e, 18e et en particulier tout le thème qui est lié à finalement l'enracinement nécessaire de l'homme dans sa patrie. Opposé au cosmopolitisme dissolvant des lumières. Donc vous avez ça. Alors quel est le programme des lumières radicales selon Sternel? Je vais vous le présenter rapidement. Il tient en quelques mots et c'est là-dessus que tout va opposer justement les radicaux et les modérés à l'intérieur même des Lumières. Le programme donc des Lumières radicales, c'est démocratie, égalité des races et des sexes, liberté totale de pensée, ça c'est important, d'expression et de presse, éradication de l'influence religieuse du processus législatif et de l'éducation, séparation complète de l'Église et de l'État, privilège donné par l'État aux intérêts séculiers, c'est-à-dire les intérêts en gros le bonheur sur Terre, et pas le bonheur après notre mort. Donc, privilège donné par l'État au bonheur, aux intérêts séculiers et matériels de la majorité, et avec comme objectif d'empêcher une minorité d'accaparer le pouvoir et ses bénéfices. Alors ça culminera d'une certaine manière Israël le cite de temps en temps, mais je me suis aperçu en le lisant qu'un auteur dont je vous avais parlé il y a quelques temps, Godwin, un proto-anarchiste anglais qui écrit en 1794, Godwin ne fait que résumer en quelques 500 pages le programme des Lumières radicales à presque tous ces niveaux-là. Et donc ça c'est assez intéressant parce que pour moi en tout cas ça montre qu'il y a une certaine continuité entre justement ces Lumières radicales et les courants anarchistes. Je pourrais le dire autrement, l'anarchisme, historiquement, c'est sans doute beaucoup moins Nietzsche et Stirner que Diderot, ou que justement Godwin et quelques autres. Donc c'est un rationalisme intransigeant, en lutte contre toutes les superstitions et en lutte contre l'obscurantisme entretenu par les élites pour la population. Donc on va faire une pause musicale après cet exposé. Jean-Mathias, t'as un truc à dire ? Non. Bon, il parlera plus tard. Et un coup de musique. Here to tell, you need me, I owe
edge of puke. Empty alleys, figures of seas, sweat on my cock, with children's eye got. Fight to survive, to stay alive. What my TV said, I got no regrets. Gotta make it home, see some hope, feel the warmth, and kill the light.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette deuxième partie. Il y aura beaucoup de parties aujourd'hui. Et vous venez d'entendre deux morceaux, vous venez d'entendre un morceau, Le Tigre, un groupe américain. Et le titre, c'est Mediocrity Rules. Donc, voilà. Et le premier, le précédent, c'était un morceau de MDC. Un groupe de hardcore américain qui s'intitule Kill the Light, donc tuer la lumière, éteignez la lumière. MDC, donc c'est un acronyme, ça peut vouloir dire Millions of Dead Cops, Millions of Dead Children, enfin bon, ce qu'on veut. Tant qu'il y a Millions of Dead quelque chose, tout marche. Précédemment, je vous parlais donc avec Jean-Mathias des Lumières Radicales de Jonathan Israel, donc, et je vous avais exposé donc leur programme. Démocratie, égalité des races et des sexes, liberté totale de pensée, d'expression et de presse, éradication de l'influence religieuse dans les processus législatifs et éducatifs, séparation complète de l'Église et de l'État, et privilège donné par l'État aux intérêts matériels de la majorité, avec une organisation politique supposée empêcher la minorité d'accaparer le pouvoir et ses bénéfices. Donc, et ça, c'est la tendance, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les Lumières, c'est-à-dire ce grand mouvement d'émancipation intellectuelle qui a bouleversé le paysage philosophique, scientifique, mais aussi politique en Europe, aux États-Unis, aux alentours du 18e siècle, et qui est représenté par ceux qu'on appelait les philosophes, par exemple comme Diderot, l'un des coordinateurs avec d'Alembert de l'Encyclopédie, ou Voltaire, celui qui a écrit Candide, Zadig, et qui faisait preuve d'une ironie féroce. Bon, en fait, on a tendance aujourd'hui à souvent assimiler le programme des Lumières au programme des Lumières radicales. Et on va voir que les Lumières modérées, représentées donc, comme je vous le disais, par Voltaire, entre autres, ne partagent pas forcément tous les points de ce programme, pour plein de raisons. Et c'est autour donc de ce programme et des conceptions qui sont présupposées par ces objectifs que vont s'affronter les deux courants principaux des Lumières, selon Jonathan Israel, dans toutes ses œuvres. Et le conflit va porter autour de quelques notions essentielles. Alors, le progrès, comment améliorer le monde, justement, la démocratie et la hiérarchie, l'égalité, est-ce qu'on veut l'égalité ou pas, est-ce qu'on pense qu'elle est possible ou pas, la guerre, est-elle un mal nécessaire, voire un bien caché, Pour certains, on verra que pour certains partisans des Lumières, on ne peut pas faire sans la guerre. Et la morale, enfin. Alors, une des thèses très très forte et qui était aussi, forcément, comme toute thèse forte, extrêmement contestée, une des thèses de Jonathan Israel, donc dans son livre Revolution of the Mind, c'est que les Lumières radicales se définissent à partir de quoi ? À partir de la pensée de Spinoza. Alors, qui est Spinoza ? C'est un philosophe juif, enfin juif, il n'a pas été juif longtemps parce qu'il s'est fait chasser de la synagogue, juif hollandais, et qui a écrit un premier livre qui a été publié aux alentours de 1770, qui s'intitulait « Le traité théologico-politique », où justement il demandait que la religion ne puisse plus contrôler la science, mais qu'au contraire la religion soit contrôlée par l'État. Et donc c'est un livre qui a fait de lui à peu près, qui a fait de Spinoza l'ennemi de tous les religieux d'Europe, et qui l'a empêché de publier tous ces livres qu'il voulait écrire par la suite, en particulier un grand livre qui s'appelle L'Éthique. Et bon, Spinoza c'était un peu le diable, c'était le diable philosophique européen pendant deux siècles facilement. On le trouvait pas dans les, on le trouvait que clandestinement. Et pour Jonathan Israel, c'est le spinozisme, la référence à la pensée de Spinoza, qui va définir les Lumières radicales. Parce que pour lui, c'est son idée, c'est que, alors c'est un peu compliqué métaphysiquement à définir. Jean-Mathias, non, toujours pas. Bon, il veut pas. Il veut pas parler. Je sais pas pourquoi. Il veut pas parler. Il est pénible parfois. Là, il me fait des grimaces. Donc oui, je vous disais, métaphysiquement, Jean-Mathias arrête de faire des grimaces. Je parle de métaphysique. Donc métaphysiquement, Spinoza pense qu'il n'y a qu'une seule, c'est ce qu'on appelle un monisme. C'est-à-dire que la réalité se définit d'une seule et même manière. Et on peut pas vraiment séparer de ce point de vue-là l'esprit et le corps. C'est-à-dire que l'esprit et le corps sont globalement considérés, selon le bon point de vue, une seule et même chose, pour aller très très vite. Alors que, et ça c'est ce qui va définir, donc c'est très très important dans la pensée de Spinoza, c'est ce qui va en faire pour plein de gens tout un athée. Et tous les spinozistes après, ou les néo-spinozistes comme s'ils se définissent eux-mêmes comme Diderot, vont interpréter purement la pensée spinoziste, purement et simplement, comme un matérialisme. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas d'esprit, il n'y a que de la matière. Et s'il y a quelque chose qu'on peut appeler l'esprit, c'est juste le résultat de d'interactions matérielles particulières. Donc voilà, il y a pas d'âme, il y a pas d'âme immortelle, donc il y a pas de paradis, il y a pas de dieu, tout ça disparaît. Boum. Et c'est vrai que Diderot est là-dedans, par exemple, un des auteurs de l'encyclopédie, un des coordinateurs de l'encyclopédie, il est complètement là-dedans. Et les Lumières modérées, elles, vont être en lutte contre Spinoza et en particulier autour de ce thème, justement de la question de savoir s'il y a une âme immortelle ou pas. Et Voltaire, à la fin de sa vie, luttera essentiellement contre les idées de Spinoza, en essayant de prouver que, en gros, il y a une âme qui va survivre à notre corps quand celui-ci cessera de fonctionner. Là-dessus, c'est assez, ça va être un des points d'accroche. Pour lui, le spinozisme aussi, on peut ajouter que le spinozisme, comme les Lumières radicales, vont se fonder sur deux idées essentielles à partir de là. C'est que, un, la raison doit être le seul guide de l'humanité, ce qui exclut la théologie, c'est-à-dire le discours religieux, et les sentiments des sphères politiques, morales et scientifiques. Voilà. Si on veut savoir, en gros, ce qui est juste, bien et vrai, il ne faut pas compter sur les sentiments, ni sur la religion. Il faut compter sur la raison. Point barre. Et ensuite, vous avez, et d'autre part, une autre idée très très forte de Spinoza, et qu'il était la seule à défendre dans ce siècle, enfin le seul parmi les grands philosophes connus en tout cas, c'est que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement, et que la liberté d'expression est juste et nécessaire. La plupart des philosophes dans l'histoire sont antidémocrates, sont des antidémocrates profonds. Tout ça part de Platon qui haïssait la démocratie de toute sa pensée. Si vous voulez lire le pire livre jamais écrit, enfin le meilleur, ça dépend de quel point de vue vous êtes, le pire ou le meilleur livre jamais écrit contre la démocratie, allez voir La République de Platon. On n'a sans doute pas écrit mieux depuis en termes de critique de la démocratie, c'est-à-dire de l'égalité entre les êtres finalement et de la légitimité de chacun à décider de son sort et du sort et à participer justement au projet commun. Donc la plupart des philosophes sont plutôt platoniciens par rapport à la démocratie. Spinoza, lui, ne l'est pas du tout. Il pense pas qu'on puisse faire vraiment mieux que la démocratie. Pour plein de raisons, j'entrerai un peu dedans. Donc on va voir ça. première idée, je vous avais dit, c'est le progrès. Alors, le progrès, c'est une idée générale dans les Lumières du XVIIIe siècle. En gros, tous les philosophes des Lumières, qu'ils soient radicaux, modérés, chevènementistes ou je ne sais trop quoi, ah non, ils n'existaient pas, ceux-là, encore. Ils pensent que le progrès est une réalité. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, qui ne sont jamais niées, c'est pas des niais. Ils voient bien que ça coince un peu partout. Ils ont quand même des yeux, il y a des bigots qui les poursuivent, qui les harcèlent et qui font censurer leurs livres, il y a des guerres et tout un tas de choses. Ils savent bien que le progrès, c'est pas bienvenue au pays des bisounours, sur une petite bicyclette rouge, sans souci et sans accroc. Bon. Mais ils pensent que malgré tous ces problèmes, les progrès sont incontestables et qu'ils s'étendent à de nombreuses sphères de la vie humaine. Et sur quoi vont-ils s'opposer, par contre? Les modérés, des Lumières, comme les radicaux. Ils vont s'opposer quant aux modalités et aux limites souhaitables des progrès. Et, c'est-à-dire, comment est-ce que le progrès se fait? Et où s'arrête-t-il? Alors, c'est une vision de l'histoire aussi, ce qui va faire que c'est un conflit assez fondamental à l'intérieur même des Lumières. Puisque c'est la manière dont on interprète l'histoire et l'histoire de l'humanité, où est-elle censée aller, cette humanité, vers le mieux, vers le pire, on va voir. Alors, donc, les modérés, eux, qu'est-ce qui va les distinguer sur la vision de l'histoire et du progrès des radicaux, c'est qu'ils ont une vision, ce qu'on appelle providentialiste de l'histoire. C'est-à-dire que, en une phrase, la société telle qu'on peut l'observer a été voulue par Dieu et ne peut pas être entièrement mauvaise à partir de là. C'est-à-dire, si on va plus loin, que tout ce qui est de mauvais dans la société doit pouvoir trouver une justification puisque c'est intégré au grand projet divin. Il y a des pauvres, il y a des misérables, il y a des gens qui meurent dans d'atroces souffrances, c'est que Dieu l'a voulu et qu'il y avait une bonne raison pour cela. Et donc, ça c'est la vision modérée des Lumières, enfin la vision modérée que des Lumières modérées sur l'histoire. Et à cet égard, une critique radicale de cette société, de la société, est fausse et dangereuse pour les Lumières modérées. On ne peut pas rejeter a priori la hiérarchie, les inégalités, les colonies, la monarchie, etc. Par exemple, Voltaire, dans une lettre assez éclairante, et qui m'a pas profondément choqué la première fois que je l'ai lu d'ailleurs, j'avoue, parce que je ne voyais pas Voltaire comme ça, j'en avais une vision du lycée, quoi, celle qu'on m'avait apprise quand j'étais sur les bancs de l'école. Voltaire écrit très tranquillement à un de ses amis que bon, les Lumières se sont pas tellement étendues, qu'elles concernent un pourcentage minime de la population parmi la noblesse européenne, et que c'est très très bien comme ça. Parce qu'il faut surtout pas aller éclairer ces abrutis du peuple. Il faut qu'ils continuent à avoir leur superstition, leur croyance débile, parce que c'est un bon moyen de faire en sorte qu'ils se tiennent tranquilles. Ils se moquent comme ça du baron d'Holbach, qui était un athée féroce et un ami de Diderot. C'est pas de d'Holbach qu'il se moque, même si c'est peut-être d'Holbach qui est visé, il se moque d'un autre qui s'appelait Bayle, qui est antérieur, et Bayle qui disait qu'une société datée était possible, et que cette société pourrait être vertueuse, agir moralement. Et il dit, ouais, de toute façon, Bayle, il aurait suffi qu'on lui donne 500 paysans à gérer, et il aurait bien vu qu'il a besoin de la religion. Alors il le dit en un français bien meilleur que le mien, mais c'est l'idée. Voilà, et ça c'est la vision modérée qu'on les Lumières, c'est la vision modérée qu'a Voltaire. Il faut surtout pas étendre les Lumières au peuple. Les Lumières doivent être réservées aux élites. Point barre. Alors là-dessus, vous voyez que on a une autre image de Voltaire. Sommes-nous tous voltairiens? Ah, je sais pas. Oui, Jean-Mathias? Non. Il est pénible ce soir. Ce que ça va donner, c'est concrètement en matière politique, c'est que les modérés vont être en faveur d'un progrès sans révolution. Et qui s'opérerait sans qu'il soit nécessaire de modifier les fondements de la société d'Ancien Régime. En gros, ils sont dans leur petite cour et ils pensent qu'il suffit de repeindre les murs pour que tout aille mieux. Il faut surtout pas foutre le bâtiment en l'air et en construire un neuf par-dessus. Et évidemment, par rapport à ça, les radicaux, eux, veulent une institution universelle de la démocratie et de l'égalité. Et ce progrès, évidemment, si on parle de démocratie et d'égalité, est inséparable de ce que Diderot appelle, textuellement, une révolution générale des esprits. Et d'un renversement de la monarchie et de la religion. Donc, beaucoup d'écrits clandestins de Diderot seront lus par exemple, le roi Frédéric II de Prusse, qui était un très bon ami de Voltaire, comme des traités purement et simplement anti-monarchistes qui appellent à la rébellion ouverte. Mais c'est parce que, aussi, aux yeux de gens comme d'hommes comme Diderot, d'Holbach et d'autres, L'histoire est davantage le résultat des conflits entre les hommes que d'une providence divine. Pour eux, il n'y a pas de providence, Dieu n'a aucun projet, il ne veut rien pour nous, parce que de toute façon, il n'existe pas. Et qu'il faudrait peut-être arrêter de parler de ces billevesées. Voilà, donc on va refaire une pause musicale, puisque Jean-Mathias, là, il est tombé malade et il a du mal à parler, il ira peut-être mieux dans 5 minutes. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième partie. Voilà, donc Jean-Mathias est parti faire le poirier dans la réserve de disques. J'espère qu'il va revenir parce que je vais me sentir un petit peu seul sans lui. Voilà, mais heureusement, bon, il y a José qui est toujours en régie. Et c'est Michel qui vous parle, voilà, et je vais vous parler. Donc, alors, on a entendu deux morceaux déjà, oui, je vous les signale quand même pour pas négliger le travail de José. Donc, le premier, c'était Five Go Down to the Sea, un groupe anglais, et c'était le titre du morceau, c'est What Happened Your Leg. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Quelque chose comme ça, j'imagine, oui. Et l'autre, c'était Königstein Youth. Alors, Königstein, c'est le vrai nom de Ravachol, et c'est un groupe français. Voilà. Alors je vous parlais donc des Lumières, d'un bouquet, en particulier de l'interprétation qui a été faite de ce mouvement intellectuel d'envergure exceptionnelle par un auteur anglophone qui s'appelle Jonathan Israel et qu'on peut trouver dans un livre qui n'est malheureusement pas traduit qui s'intitule Revolution of the Mind. Et mais bon, bah voilà, on va essayer de le faire connaître un petit peu malgré l'absence de traduction de ce livre-là en particulier. Et donc je vous disais, voilà, il y a une grosse opposition entre ce qu'on pourrait appeler des lumières radicales et des lumières modérées. Et j'avais essayé de montrer cette opposition, à partir évidemment de ce qu'en dit Jonathan Israel, sur l'idée de progrès. Maintenant, je vais m'attaquer à l'idée de démocratie. Et donc là, le choix est entre les modérés et les radicaux, entre eux pour les personnifier, les Diderot du côté radical et les Voltaire du côté modéré, va être simple. Voilà, est-ce qu'on veut la démocratie ou est-ce qu'on veut toujours une hiérarchie? Alors là, la ligne de fracture entre les modérés et les radicaux des Lumières est perceptible dans les jugements qui sont portés à l'époque sur la monarchie constitutionnelle anglaise, puisque les Anglais ont fait leur révolution bien avant nous, et la révolution américaine. En gros, c'est assez simple, les modérés admirent comme un modèle à imiter le Royaume-Uni. Et les radicaux le critiquent, car il ne s'agit pour eux finalement que d'une monarchie encadrée par l'aristocratie. Ils ne voient pas du tout dans l'Angleterre un modèle politique à imiter. Alors que si vous lisez des gens, alors quelqu'un comme Montesquieu, qui est un petit peu ambigu, Montesquieu, difficile à situer, mais Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des Lois en 1746, dans ces eaux-là en tout cas, 1750, Montesquieu, lui, présente le Royaume-Uni comme un modèle indépassable d'équilibre politique. Bon, Voltaire est aussi un grand fan du Royaume-Uni, etc., etc. Et ça, c'est pour le Royaume-Uni, donc... Voilà. Pour les radicaux, c'est juste une monarchie encadrée par des aristocrates. Quant à la révolution américaine, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on l'avait déjà vu avec, avec ce qu'en dit David Graeber, les pères fondateurs de la révolution américaine étaient tous des modérés. Satisfaits, très très satisfaits d'œuvrer dans un seul pays. Et alors que les radicaux, enfin les partisans des Lumières radicales, qui se trouvaient, on en trouvait aussi certains aux États-Unis, on en trouvait un petit peu partout, eh ben les radicaux espéraient que cette révolution accélérerait la démocratisation dans le monde. Et donc ils ont été extrêmement déçus de voir que les Américains gardaient des esclaves, par exemple. Et ça a été une critique quasiment immédiate de la révolution américaine. Vous faites la révolution, vous êtes bien gentil, mais vous avez toujours plein d'esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire, votre révolution? Pourquoi est-ce que vous cherchez pas à libérer aussi vos esclaves? Et d'autre part, ce qui les embêtait aussi beaucoup, c'est qu'ils voyaient bien que une aristocratie informelle naissante se reconstituait très très vite aux États-Unis. Et donc pour les radicaux, pour les Lumières radicales, le modèle américain n'était pas non plus un modèle à suivre à cause de ces deux choses, l'esclavage et une aristocratie informelle fondée sur le pouvoir de l'argent, pour aller vite, pour aller très très vite. Bon. Et alors, qu'est-ce que les radicaux, eux, vont défendre comme idée? Alors, ils vont défendre quelque chose qui, pour les anarchistes d'aujourd'hui, ne serait pas satisfaisant, mais qui était très avancé à l'époque. Ils voulaient une espèce de république élective. Et ici, l'élection, elle avait une fonction pour eux, une fonction particulière qu'on a eue tendance à oublier parce que, évidemment, nous, on n'a pas trop connu d'aristocrate. Pour eux, l'élection, elle avait un seul but, c'était d'éliminer les charges héréditaires. Ils pensaient qu'il n'y avait rien de pire qu'une charge héréditaire. On ne peut pas trop les contredire là-dessus, enfin, du moins penser que les charges héréditaires sont une catastrophe politique. Et donc, ils voyaient les élections comme justement un moyen de court-circuiter ça. Évidemment, bon, ils n'avaient pas forcément vu... tout ce que les élections pourraient charrier de forcément, alors ils y pensaient sans doute, mais de démagogie, de capacité finalement de les élections récompensent la capacité à intriguer plutôt qu'à proposer des solutions diverses et variées. Alors et donc les radicaux, eux, sont fermement convaincus là-dessus, et c'est toujours par rapport, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout ce qu'ils défendent politiquement, c'est dans leur lutte contre la monarchie. Contre la monarchie et contre l'aristocratie. C'est ça leurs ennemis à l'époque. Donc, forcément, ils vont pas forcément très très loin en matière de modèles politiques positifs qui pourraient nous satisfaire. Bon, mais ils sont convaincus donc que les systèmes politiques monarchiques ou aristocratiques sont tyranniques par principe. On peut pas y échapper. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fondés sur la confiscation du pouvoir et de ses bénéfices par une minorité. C'est le principe même pour eux de toute monarchie, de toute aristocratie. Et de ce point de vue-là, on pourrait peut-être reprendre leur critique par rapport à notre aristocratie politique actuelle. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, c'est une petite clique et ils confisquent le pouvoir et ses bénéfices. Ça, je doute. À part dans Libération et dans Le Figaro, je ne vois pas comment on pourrait trop le contester. Mais bon. ça c'est de la polémique, on va éviter. Jean-Mathias. Jean-Mathias a arrêté de faire le poirier, je vous l'indique, mais il boude toujours. Bon, voilà, il regarde son micro comme si le micro était menaçant et dangereux. Bon, on verra. Alors, je reviens à mes lumières, donc critique de la monarchie, critique de l'aristocratie, et ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous êtes un penseur du XVIIIe siècle, et que vous dites ce que je viens d'expliquer sur la monarchie et l'aristocratie, à savoir que ce sont des régimes tyranniques par essence, alors qu'avant, quand on définissait la tyrannie, avant ces auteurs-là, la tyrannie c'était quoi? C'était un roi qui faisait des choses qui n'étaient pas garanties par des précédents. C'est-à-dire que le roi tyrannique, c'était pas celui qui opprimait ses paysans, c'est celui qui les opprimait d'une manière nouvelle. Mais s'il les opprimait de la même façon que son père, c'était pas un tyran. Donc pour Diderot, d'Holbach et compagnie, non, c'est tous des tyrans à la base. Et donc pour eux, ce que ça implique, c'est qu'aucun régime politique existant à leur époque n'était satisfaisant. Absolument aucun. Tous étaient bons à renverser et à révolutionner. Et de ce point de vue-là, il faut bien voir la radicalité de la position. C'est pas pour rien que, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas forcément, que Diderot a publié la majeure partie de ses écrits de manière clandestine. Et de façon anonyme, avec des noms d'auteurs fantaisistes, des dates d'impression fantaisistes, des lieux d'impression fantaisistes. Bon, presque tous les gens informés savaient que c'était lui ou s'en doutaient, mais on ne pouvait pas trop le prouver. Mais Diderot a écrit énormément et quasiment tout sous le manteau, parce qu'évidemment, il avait un point de vue totalement révolutionnaire. Alors, par contre, bon, évidemment, ça, il ne faut pas attendre de Diderot et d'Holbach qui réclament une espèce de démocratie directe. Parce que eux, ils y voient un risque de théocratie, de démagogie, de bidule, de machin. Bon, là-dessus, ils en restent quand même à l'idée que le peuple est suffisamment éclairé pour choisir des gens plus éclairés que lui pour le diriger. C'est la limite de leur vision politique. Au XVIIIe siècle, on peut penser que c'était déjà relativement avancé, mais c'est une limite quand même qui fait que on est obligé de les. On peut pas trop quand même s'inspirer d'eux en matière de solutions politiques positives. Alors, bon, par contre, comme je vous le disais, pour les modérés, les lumières modérées, un ordre divinement conçu ne peut être mauvais sans nécessité. Et donc, pour Voltaire, les inégalités, elles sont inhérentes à la condition humaine, et ce serait à la fois inutile et nocif de chercher à les corriger. On peut noter que le discours de bien des journalistes actuellement n'est pas très différent. Les inégalités font partie de la société, et alors eux ils vont pas le justifier par Dieu, ils vont le justifier par les lois de l'économie, mais c'est presque pareil, et ils nous diront exactement la même chose. Vous êtes bien gentils et généreux de vouloir corriger les inégalités, mais les lois de l'économie s'y opposent, et si vous cherchez à le faire, vous rendrez les riches plus pauvres et les pauvres encore plus pauvres. Donc surtout, ne touchez à rien. Finalement, la structure du raisonnement est exactement la même, il me semble. Donc ça c'était pour, si vous voulez, démocratie ou hiérarchie. Et alors, si j'enchaîne, on va peut-être faire une pause musicale, José. Ouais, on va faire une pause musicale, puis après j'enchaînerai sur égalité et inégalité. Jean-Mathias, arrête de manger la mousse du studio, s'il te plaît. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit, donc avec José, Jean-Mathias, qui continue de manger la mousse. On l'a empêché, parce que, quand même, merde. C'est toxique, et puis en plus, c'est la mousse du studio, on en a besoin. Donc moi-même, Michel, et vous venez d'entendre Bomb Disneyland, un groupe donc anglais, et le titre du morceau c'était Faster Bastard. Donc je vous parlais des lumières radicales et des lumières modérées, telles que les interprètes Jonathan Israel dans son livre A Revolution of the Mind. Et j'en arrivais, et je conclurai sans doute cette émission là-dessus, oui, il y a des chances, sur l'égalité. Donc, on a vu justement démocratie ou hiérarchie, l'idée de progrès, ce qui séparait fondamentalement ces deux courants des Lumières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, selon Jonathan Israel, donc, le principe égalitaire va être central dans les Lumières radicales. Et l'égalité n'est abordée par ce courant, par le courant radical des Lumières, que dans les relations sociales et politiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que, par exemple, pour un modéré comme Locke, l'égalité des âmes devant Dieu ne servait finalement qu'à justifier les inégalités sur Terre. Et les radicaux, de type spinoziste ou autre, ne considéreront même pas cette question, qui pour eux n'est qu'une diversion, ne sert finalement qu'à oublier ou masquer l'essentiel, qui et l'essentiel c'est quoi ? C'est les inégalités féroces entretenues par une minorité au pouvoir. Et donc, Spinoza avait déclaré une espèce d'égalité de principe, mais c'est surtout Diderot et d'Holbach qui, un siècle plus tard, vont lancer une large critique des inégalités sociales. Et cette critique, évidemment, les Lumières modérées ont essayé de l'endiguer. Et là, un des points très intéressants, je trouve, dans l'étude de Jonathan Israel, donc dans son livre The Revolution of the Mind, c'est que pour lui, l'économie libérale classique est née dans ce contexte. C'est-à-dire qu'Adam Smith, c'est un philosophe des Lumières écossais, qui justement va, avec l'économie, justifier les inégalités. D'accord ? Bien sûr, les radicaux, quoi qu'on en dise, type Diderot, à l'époque, il rêve pas du tout d'imposer une égalité économique totale. Il est juste dangereuse, injuste, intenable, etc. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est attaquer la hiérarchie des ordres sociaux, les énormes déséquilibres de la distribution des richesses. Pour citer Rousseau, qui n'était pas forcément toujours un radical, l'injustice fondamentale, c'est que certains aient beaucoup plus que le superflu, tandis que d'autres manquent du nécessaire. Et pour eux, dans ce cadre-là, on peut justifier certaines inégalités, mais pas ce type d'inégalité, où vous avez un type qui possède un yacht, ou trois yachts et deux avions privés, tandis qu'un autre crève de faim. Donc, ici, vous avez... bien sûr, évidemment, on a accusé les radicaux de vouloir détruire l'harmonie sociale avec leur chimère égalitariste. Bon, ça c'est un discours que vous devez connaître par cœur, parce que là non plus, il n'a pas changé, en fait, depuis cette époque-là. Dès qu'on aime l'égalité, dès qu'on a envie d'égalité, on nous dit qu'on est un utopique rêveur, dont l'action n'aboutira qu'à des catastrophes épouvantables. Alors, qu'est-ce que dit l'économie contre, justement, ce discours égalitaire ? L'économie, donc, qui est fondée par le ministre français, aussi un philosophe modéré, Turgot, par un Italien, Beccaria, et par un Écossais, Adam Smith, pour proposition centrale que la société progressera si les lois du marché ne sont pas entravées par l'action de l'État. Et il pense que, et c'est ça un point important, c'est que cette amélioration produite par l'économie est possible sans toucher la hiérarchie sociale et à l'ordre politique, même si elle suppose d'importantes réformes. C'est-à-dire que les libéraux de cette époque se disent, voilà, si on laisse faire les lois du marché, on peut garder un système monarchique ou aristocratique, mais la prospérité découlera du système économique lui-même, sans aucune révolution politique. D'accord ? Mais, dans le même temps, ce qui est intéressant, très significatif, c'est que pour ces auteurs que je viens de vous citer, donc Turgot, un Français, Beccaria, un Italien, Smith, un Écossais, les questions de la distribution des richesses, de la pauvreté et de la privation ne touchent pas à l'économie. Pour eux, c'est toujours des accidents économiques produits par une mauvaise gestion, et si on laissait les choses faire, Bon, il y aurait quelques accidents, comme ça, une petite famine de temps en temps, bon, rien de grave, quelques pauvres meurent, mais globalement, ça marcherait beaucoup mieux. Et évidemment, on revient sur ce que je vous disais au début de cette émission, enfin en deuxième partie, c'est que ces économistes, enfin ces fondateurs de la science économique, enfin science économique c'est beaucoup dire, de cette idéologie économique plutôt, une conception providentialiste, une fois de plus, du progrès humain. Et en plus, ils sont en faveur de l'aristocratie. Une fois de plus, on voit, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi, c'est Dieu qui a voulu des riches, qui a voulu des pauvres, et ce serait aller contre, finalement, Dieu, que de s'opposer aux inégalités de richesse. Donc, alors, ils restent partisans des Lumières, parce qu'ils sont quand même, ils critiquent certaines institutions de l'Ancien Régime, d'accord, de ce point de vue-là, ils ont un côté réformateur, mais ils restent aussi profondément conservateurs à d'autres niveaux. Donc, par exemple, Turgot, ce ministre, allait jusqu'à penser que les inégalités étaient nécessaires, qu'elles étaient un moteur de progrès. Sans inégalité, il n'y aura pas de progrès, parce que, en gros, les gens ne se bougeront pas pour sortir de leur misère. Ou ne se bougeront pas pour rester en haut de leur petit trône. Voilà, ils arrêteront toute activité positive pour l'humanité. Alors, et c'est là que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent, enfin pour ceux qui se penchent un petit peu sur l'économie, c'est que un des premiers conflits justement entre l'économie du laisser-faire et l'égalitarisme radical a lieu à ce moment-là, en 1769-1770, c'est la controverse de la guerre des grains. Et vous avez un Diderot qui, sous couvert d'un certain abbé Galiani, critique le libre-échange. Critique le libre-échange parce que pour eux c'est une ignominie. Ça débouche nécessairement sur la famine. Et à ce moment-là, c'est les modérés qui gagnent la partie, dans les années 1760-1770, et qui réussissent à appliquer certaines de leurs réformes. Et ce qui fait que, ben, aujourd'hui, pour certains commentateurs, ce sont ces modérés qui représentent les vraies lumières, parce qu'ils étaient impliqués dans la vie politique, on les laissait essayer certaines réformes. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont échoué de façon spectaculaire. C'est une catastrophe. Ils ont surtout totalement échoué à corriger les principales sources de mécontentement populaire sous l'Ancien Régime, dont les structures en fait politiques et sociales, selon Jonathan Israel, étaient bien trop implantées pour être bouleversées par des réformes. En gros, l'Ancien Régime ne pouvait être changé que par une révolution. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le réformer à la marge. C'était pas possible, ça ne pouvait pas marcher. Et selon lui, c'est cet échec politique des Lumières modérées qui va expliquer pourquoi le terrain intellectuel va être dominé par les Lumières radicales dans les années 1780, et c'est ce qui va expliquer au bout du compte la révolution de 1789. C'est qu'à ce moment-là, en quelque sorte, les Lumières modérées perdent la partie, et Israël fait une étude, ils ont aussi étudié, par exemple, il a aussi étudié avec, à partir d'autres études, évidemment faites par d'autres personnes, la circulation de tout un tas de littérature clandestine, sous la forme parfois, pas forcément de livres, mais de chansons, de petits pamphlets, de tracts et autres, qui étaient lus, qui étaient très très largement lus en fait, et qui étaient diffusés. Ce qui fait que l'influence d'un Diderot dépassait largement le nombre de ses lecteurs réels, parce que ses idées circulaient sous d'autres formes que la forme purement livresque réservée, là encore, à une petite bourgeoisie assez minoritaire, quelques milliers de personnes à Paris à l'époque. Et c'est ce qui, pour Sternel, explique la forme particulière qu'a pris la Révolution française. La Révolution française qui, contrairement à beaucoup d'autres révolutions, est allée très très loin, justement, dans a entraîné un changement complet de vision du monde. Aussi bref, cela fut-il. Mais bon, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, Jean-Mathias n'a pas réussi à participer parce que je crois que les Lumières, ça lui plaisait trop. Voilà, donc il est parti s'enfermer dans l'obscurité pour se remettre d'autant d'éclairage. On le reverra sans doute à un moment ou à un autre. Et alors, je vais vous laisser, mais très brièvement, parce que Willy et Daniel ne pouvaient pas assurer l'émission entre chien et loup, et ils nous ont demandé si on voulait prendre leur créneau, et avec José et Jean-Mathias, bien sûr, on s'est dit, on allait leur piquer leur créneau, puis vous passez tout un tas de musique bizarre. Donc, après cette pause, on revient, mais cette fois-ci, pas pour vous gonfler avec de la philo, mais pour vous casser les oreilles. À tout de suite. Et là, vous allez entendre New Model Army.
next song, another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo through the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. South of here, two young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret mother tongue. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. Thousand miles away, in a warehouse complex down by the river, your money men play paintball games. Here comes the war. Here comes the war. Put out the lights on the age of reason. Tell us some of those great stories, the ones about serial killers.
Your dreams flow into savage toys.
Cheer the siren screaming out across the...